La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Bon, ça fait quelques fois qu'on aborde le sujet, mais hier, on a eu, je pense, des indications qui nous montrent qu'il faut se préparer quand même dans la tête et avec le portefeuille, avoir les taux d'intérêt augmentés en 2022.
Tout est dans la force du mental, de l'anticipation de la hausse des taux, parce que plusieurs personnes qui ont négocié à taux variable avant la pandémie étaient contents de leur taux, tu comprends? Puis là, un jour est arrivée la pandémie et le taux directeur a baissé drastiquement, si bien qu'on s'est retrouvé avec des prêts hypothécaires à des taux complètement extraterrestres, c'est-à-dire près de 1,5. Et on s'est habitué à ça. Et hier, le gouverneur de la Banque du Canada dit, ben écoutez, septembre, avril à septembre, peut-être 2022, là, tu sais, anticipez-vous un retour à une, disons, une orientation vers la hausse. Puis la traduction, c'est qu'on veut retourner à un taux directeur qui s'approche du neutre. Neutre, ça veut dire, dans le fond, non facilitant. Présentement, là, on joue avec la politique monétaire pour aider l'économie canadienne, mais ça fait en sorte que des gens, depuis un an, qui achètent des immeubles, des maisons, basé sur une prémisse extraterrestre, c'est-à-dire un taux d'intérêt qui est presque gratuit. Et ça, ça crée un effet d'augmentation du prix de l'immobilier aussi. Et avec toute la rareté qu'on a au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ben on vit une inflation massive, on vit des taux d'intérêt bas, on vit de l'immobilier élevé. Puis là, la banque joue avec notre mental, nous dit « revenez tranquillement pas vite à la réalité ».
Mais si on prend un exemple très concret. Mettons que, là, que j'ai acheté, comme on dit, au moment où c'était le plus élevé comme prix, là, bon, j'ai un taux d'intérêt qui est bas. Puis mettons là, que mon hypothèque est à renouveler à la fin de 2022.
Fin 2021 ou fin 2022?
22.
OK.
Donc, il faut que je me prépare à payer plus cher.
Oui, mais attends, encore là, il y a deux choses. Les taux d'intérêt variables sont basés sur le taux directeur, ce que je parle. Okay. Le taux d'intérêt, si vous signez 5 ans fixe, là, c'est basé sur autre chose, sur des taux obligataires. Okay, et donc, la courbe de taux d'intérêt est un peu différente. Mais beaucoup de gens ont signé variable en voyant le rabais que tu as souvent sur le variable par rapport au fixe. Mais même le fixe va s'ajuster. Tout ça est une courbe d'ajustement et d'anticipation.
Mais en bout de ligne, il m'a payé plus cher.
Techniquement, oui. Puis en bout de ligne, donnons un exemple. Si vous avez un prêt hypothécaire de 400 000, puis vous augmentez de 1 %, ben ça va vous donner 200 $ par mois de plus, disons, de paiement. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Mais c'est quand même quelque chose, parce que on a un taux directeur à 0,25 et il était à 1,75 avant la pandémie. Donc, le variable était à 1,5 % désavantageux par rapport à maintenant, avant la pandémie. Donc, on voit un peu ce que ça fait. Puis le gouvernement voulait revenir, pas le gouvernement, mais la banque voulait revenir à un taux neutre avant la pandémie. Je me souviens, on envoyait des discours, on disait on va retourner à un taux plus neutre. Puis là, ben on n'a pas été capable. Hein? Et là, on veut y retourner. Mais évidemment, on peut pas faire un choc. On peut pas dire aux gens, on va vous augmenter de 3 % d'un coup. Donc, on va y aller tranquillement. Maintenant, il n'y a pas de garantie. Écrivez-moi pas pour me demander quand exactement. Puis, est-ce que vous devriez signer fixe ou variable?
Non,
s'il y avait une bonne réponse, il n'y aurait pas d'option.
Voilà. Pénurie de main-d'œuvre. Oui. Bon, c'est sûr que c'est l'expression à la mode parce qu'on l'entend dans tous les secteurs de l'activité économique.
Oui, et par rapport à une autre époque, tu sais, si on retourne il y a 20, 30 ans, avant l'Internet massif, disons que quand il y avait une pénurie de main-d'œuvre, on recevait des offres d'emploi. De toute façon, il n'y en avait pas vraiment à cette époque-là.
Non.
Mais on voyait, quand on voulait avoir un emploi, on avait le processus, on avait l'emploi, on demandait des augmentations, puis on était content. Mais là, le marketing, autant médiatique que gouvernemental que les entreprises, influence-t-il le problème? Amplifie-t-il le problème? Juste ce matin, on voit l'usine à côté du lac d'Amazon qui dit « On est à 65 % robotisé, puis malgré tout, on a besoin de 500 employés. En passant, on fait un chèque si vous venez. » Puis les salaires de départ sont en haut du minimum. Et donc, on voit l'espèce d'appel des entreprises. Starbucks, qui est une entreprise des plus capitalistes au monde qui a profité de l'évitement fiscal au max, dit quand même « Nous allons augmenter nos baristas et nos superviseurs. » Et publiquement, on diffuse les salaires. Ça donne-t-il une idée à quel point la pénurie de main-d'œuvre est devenue un marketing positif pour l'employé? C'est rendu que tu vas à une entrevue, puis le gars, il dit « Pourquoi je t'engagerais? » Mais parce que t'as personne d'autre. Bonne réponse. T'exiges une prime à l'entrée. Le boss dit « Pourquoi je te la donnerais? » Ben, regarde les nouvelles. Tout le monde en donne. Même McDonald's te donne une prime pour rentrer. Ils disent, ouais, c'est vrai. Donc, les employés des gens en poste, en plus, peuvent se revirer de bord, regarder les nouvelles, puis dire, ben, Starbucks donne 6 à 10 % d'augmentation. Toi, tu me donnes quoi? Donc, c'est fascinant à quel point ça devient un outil d'employés qu'on n'a jamais vu. Et pendant ce temps-là, on parle de la hausse du salaire minimum au gouvernement qui n'est pas encore assez élevée. Pendant ce temps-là, on parle attention au futur, attention à la robotisation, mais en attendant, il y a des jeunes, Paul, qui se demandent s'ils doivent rester à l'école. C'est pas fou, là. Écoute, c'est une période complètement folle. Ton kid, il se dit, je m'en ferai plus cher que mon expectative de revenir en sortant d'il y a 2 ans. Pourquoi j'irai à l'école? Puis là, faut que tu expliques du long terme. Faut que tu expliques des courbes économiques. Puis présentement, t'as pas d'argument rapide. Écoute, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai engagé un kid. Il a fallu que je le paye plus cher que moi. Mais j'ai dit, voyons donc, oui, c'était un contrat temporaire, puis il n'y avait personne. Il demandait plus cher que les employés en place. On était obligé d'y donner. Qu'est-ce que tu penses ça fait chez les employés en place?
Ah non, mais là, c'est sûr.
C'est l'effet domino.
Puis là, tu parles des salaires, mais on pourrait parler aussi des autres avantages, puisque parce que beaucoup d'employés veulent pas nécessairement faire plus d'argent.
Oui, évidemment.
Ils veulent avoir plus de flexibilité, ouais, du temps, puis de dire, ben moi, le vendredi après-midi, je rentre pas. Puis tu sais, c'est souvent ça aussi. Là. C'est pas
la langue cachée du Québec. Au Québec, c'est quoi la langue cachée? C'est de dire, avec tout notre filet social, puis tout ce qu'on a mis en place, l'employeur paye de l'assurance-emploi, tu vas payer du RQAP, le régime de retraite, le régime des rentes du Québec, l'assurance médicaments et validité de ton employeur. Quand tu en demandes une augmentation, c'est tout ça qui se bonifie. Alors, c'est pas juste de regarder le salaire minimum augmenter puis les revenus des autres, c'est de dire tout l'impact sur tes avantages sociaux qui sont aussi coûteux pour l'employeur et pour toi, puis ajoute à ça finalement les avantages socio-fiscaux, parce que regardez bien les gouvernements, là. C'est pas vrai qu'on va venir bonifier de 5, 6, 7 % toutes les allocations puis les aides gouvernementales pour compenser la hausse des salaires. Il y a des gens qui vont se retrouver à gagner d'une place puis à perdre de l'autre. Ça suit.
Merci.
Salut.
Bien intéressant.
C'est 23.